Olivier Dadoucette, on va terminer ensemble avec cette revue de presse critique, parce qu'Alzheimer, on en parle quand même pas mal, et il se dit des choses dont on a envie parfois d'avoir des confirmations. Alors on va commencer avec cette interrogation, les ondes des téléphones sont-elles responsables de l'Alzheimer précoce ? Ça a été publié dans une revue scientifique Current Alzheimer Research, qu'en pensez ?
Oui, alors, les ondes de téléphone seraient responsables de beaucoup de maladies. C'est un petit peu une tarte à la crème. Et on connaît des gens qui se disent totalement allergiques à ça. Enfin bref, c'est une histoire assez complexe. Pour le moment, on n'a pas de certitude. Alors, oui, quelqu'un aurait publié un article considérant que les ondes courtes émanant de nos téléphones portables pourrait avoir un impact sur les échanges calciques à l'intérieur des neurones et serait donc un facteur de risque vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer, ce qui expliquerait que, il y aurait un abaissement de l'âge d'apparition de la maladie d'Alzheimer. Bref, rien de tout ça n'est très rigoureux et je dirais que... méfions-nous de ces allégations. Quoi qu'il en soit, ne sachant pas trop quels sont les impacts sur notre santé de nos téléphones portables, même s'ils me paraissent quand même relativement limités, parce que depuis le temps qu'on les utilise, si c'était vraiment grave, considérant l'intensité avec laquelle certains pratique le téléphone portable, si vraiment il y avait un danger, on le saurait. Mais je pense quand même qu'il est prudent, de ne pas en abuser, c'est tout.
Alors, on le met pas sous l'oreiller pour dormir, en position oui. Allumée, enfin des réflexes de bon sens, quoi.
Chose de bon sens. Mais enfin, donc on a dit beaucoup de choses sur les téléphones portables, les cancers. Maintenant, c'est Alzheimer. Bientôt, ça va être probablement la dépression, la schizophrénie, je ne sais pas. Mais rien n'est sûr.
L'excès en tout est de toute façon à déconseiller.
In medio stat virtus.
Deuxième question, des plaques de gras dans le cerveau favorisent-elles la survenue de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, alors là, c'est une question parmi d'autres qui vont revenir sur les liens qui pourraient exister entre le réseau vasculaire cérébral et la maladie d'Alzheimer. Alors, en étant très schématique et rapide, pour la faire courte, comme vous l'avez compris par les exposés qui m'ont précédé, la maladie d'Alzheimer est une pathologie qui reste infraclinique, c'est-à-dire sans signes cliniques, pendant 10, 15, voire 20 ans. Pendant tout ce temps, ces protéines que nous avons bien identifiées, tau et bêta-amyloïde, s'accumulent dans le cerveau à notre insu. Et c'est au bout d'un certain nombre d'années d'évolution que les premiers symptômes apparaissent, la mémoire, l'orientation, etc. Pendant toute la période qui précède l'apparition des symptômes, tout ce qui aide notre cerveau à lutter contre le dépôt de ces protéines et notamment ces signes cliniques sont des facteurs, on va dire protecteurs. Tout ce qui, au contraire, précipite l'apparition de la maladie d'Alzheimer sont des facteurs dits de risque. Or, ce que nous avons parfaitement identifié maintenant depuis nombreuses années, c'est tout ce que nous appelons les bourreaux du cœur. C'est une métaphore pour désigner tous les comportements qui peuvent altérer le réseau vasculaire cérébral. Vous savez que notre cerveau est parcouru par des millions de vaisseaux qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui apportent à cette usine incroyable qui consomme 20% de notre oxygène et à peu près 40% du glucose, eh bien, ils apportent en permanence ces nutriments dont le cerveau a absolument besoin. Il ne vous aura pas échappé que si vous ne respirez pas plus de 4 minutes, vous allez être en état de mort cérébrale rapide, d'accord ? Parce que notre cerveau a constamment besoin d'oxygène. Cet oxygène arrive par ce réseau vasculaire très, très dense, mais tout petit et donc fragile. Donc tout ce qui fragilise le réseau vasculaire cérébral est un facteur de risque pour Alzheimer, parce que notre cerveau, si il n'a pas sa quantité d'oxygène et de métabolites quotidienne, va être à la peine. Il a besoin de lutter contre donc une maladie évolutive. Si en plus il n'a pas ce qu'il lui faut pour lutter, eh bien il va baisser les bras beaucoup plus vite. Donc on sait maintenant que les bourreaux du cœur sont des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer. Et parmi les bourreaux du cœur, on a identifié le tabagisme, l'hypercholestérolémie, la sédentarité, ne pas faire d'exercice physique, le diabète et l'hypertension. Merci. Voilà. Donc, on parle de dépôt de je sais pas quoi,
mais de gras, lipides, on va dire.
Oui, alors dépôt de gras, ça ne veut rien dire du tout, mais effectivement, dépôt de plaques, d'athérome, tout ce qui donc altère, eh bien, le réseau vasculaire est néfaste et peut précipiter l'apparition d'une maladie d'Alzheimer.
Donc, contre ça, la meilleure solution, c'est de marcher régulièrement, de bouger, de monter des escaliers, etc., etc.
Exactement, d'avoir une bonne hygiène cardiaque, cardiovasculaire.
Une alimentation riche en vitamine K peut-elle diminuer les risques de maladies neurodégénératives et de maladies d'Alzheimer ? Alors, la vitamine K, c'est dans les choux, c'est dans les légumes verts.
Dans les choux, les brocolis, les épinards, tout ce qui est donc les feuilles un peu vertes, comme ça, ça marche bien. À la différence, alors, on croit beaucoup, enfin, parce qu'on a été bercé par les dessins animés avec Popeye, que les épinards sont riches en fer, pas du tout. Hein. Ils n'ont pas beaucoup de fer, mais par contre, ils ont beaucoup de vitamine K. Bon, alors, il y a une étude qui a fait parler d'elle, et je pense qu'il faut se méfier, parce que là encore, ça fait partie de toutes ces études. On en voit sur l'Alzheimer, mais on peut en voir sur plein d'autres pathologies, où on vous sort un aliment ou une vitamine, et on vous dit, celle-là, elle est bien parce qu'elle freine le vieillissement cérébral, le vieillissement en général, etc. Et puis quand on regarde de plus près, on se rend compte que oui, c'est une étude intéressante qui a été menée sur des rats, mais qu'on attend l'étape suivante pour aller vers l'homme. Donc là, en l'occurrence, c'est une étude qui a été menée par un chercheur saoudien sur des rats. D'accord ? Et effectivement, il s'est rendu compte que ces rats, s'ils leur donnent la vitamine K, ils ont un déclin cognitif moins important. Bon, alors, le déclin cognitif du rat, déjà, j'aimerais savoir ce que c'est exactement. Et après, le passage à l'homme, ben, on attend l'étape suivante. Mais ce qui peut-être peut nous parler, nous, à notre niveau simple mortel, qui mangeons des brocolis tous les jours ou de temps à autre, c'est que la vitamine K est une vitamine qui joue sur les processus inflammatoires. Or, parmi les hypothèses concernant Alzheimer, puisque on ne sait toujours pas, au fond, qu'est-ce qui déclenche Alzheimer, il y a l'hypothèse inflammatoire. Peut-être que la maladie d'Alzheimer serait une maladie inflammatoire. La vitamine K étant un facteur protecteur de l'inflammation, pourquoi pas ? Donc, manger des brocolis, ça ne pourra pas vous faire de mal.
Bon, mais pas que des choux, forcément, non plus.
Non, non plus.
Cholestérol, glycémie, peuvent-ils aider à prédire la maladie d'Alzheimer ? On a un petit peu déjà répondu.
J'ai répondu.
L'exposition à la pollution atmosphérique peut-elle amoindrir les performances cognitives ?
Alors,
ça, c'est
oui,
une étude française.
Une étude française intéressante qui indiquerait que les gens qui habiteraient à proximité, par exemple, des lieux de passage, comme les périphériques ou des endroits très pollués, auraient peut-être un déclin cognitif un petit peu plus important que les autres. Pourquoi ? Peut-être que c'est encore une fois lié à ces problèmes d'oxygénation.
D'inflammation. En tout cas, il a été démontré maintenant assez clairement que ça augmente le risque d'AVC.
Oui.
Donc
oui,
c'est peut-être lié.
Aussi. Tout ça a un rapport. Bon, voilà. Bon, je pense que.
Bon, alors après, déménager, c'est pas toujours facile, mais si on fait un jogging, vaut mieux pas le faire à côté du périphérique.
Voilà.
En gros. Dormir 7 heures par nuit serait la durée idéale de sommeil dès la quarantaine, selon une étude de Cambridge.
Oui, le sommeil est un facteur de risque par rapport à la maladie d'Alzheimer, parce que, pour plein de raisons, mais notamment, on retraite beaucoup d'informations que nous avons enregistrées dans la journée, elles sont retraitées la nuit, pendant notamment la période de rêve. Et donc, il est clair que pour avoir une bonne mémoire, mais on a tous fait cette expérience quand on était étudiant, eh bien, il vaut mieux dormir un bon coup avant un examen que de bosser toute la nuit et d'arriver complètement épuisé. Voilà. Alors, par la suite, oui, dormir améliore les fonctions cognitives et permet de prévenir l'Alzheimer dès lors qu'on arrive à maintenir un sommeil de qualité, car en vieillissant, le sommeil a tendance un petit peu à se désynchroniser. Donc, bien dormir, c'est utile parce que ça permet de retraiter l'information, mais ça permet aussi de pendant la durée du sommeil, notamment le sommeil dit lent profond, eh bien notre cerveau évacue les toxiques. Donc il faut avoir un bon sommeil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que les gens qui dormaient moins de 7 heures, c'est-à-dire ceux qui dorment 6 heures et moins, sont peut-être un petit peu à risque par rapport aux maladies neurodégénératives. Bon, on pouvait s'en douter. En revanche, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que les gens qui dorment trop sont eux aussi pas forcément mieux lotis. Donc, c'est bien de dormir, mais il ne faut pas dormir trop. Entre 7 et 8 heures, je dirais. Il faut que vous connaissiez votre tempo. On le connaît, on l'a tous. Et c'est assez même fixe, c'est déterminé probablement un peu par les gènes. Mais on sait plus ou moins combien de temps il nous faut. Et essayez de garder ce temps. Et quand on vieillit, c'est vrai que la nuit, on dort un petit peu moins bien. Mais à ce moment-là, rattraper la perte par une petite sieste. Moi, je suis très en faveur des siestes. Une sieste d'une demi-heure, maximum trois quarts d'heure. C'est excellent quand on a mal dormi la veille.
Existe-t-il un lien entre la dépression tardive et la maladie d'Alzheimer chez les personnes âgées ?
Peut-être. Je dis peut-être parce que ce qu'on a du mal à déterminer aujourd'hui, c'est si, au fond, ces dépressions tardives ne sont pas les signes avant-coureurs de la maladie d'Alzheimer. Donc, on ne sait pas si on parle de la cause ou de la conséquence.
C'est l'histoire de l'œuf et la poule, là.
Un petit peu, voilà. On ne sait pas si c'est parce qu'ils sont déprimés que l'Alzheimer va apparaître ou si c'est parce qu'ils ont Alzheimer qu'ils sont déprimés un petit peu précocement, enfin avant l'apparition de la maladie.
Bon, enfin, en tout cas, en cas de dépression...
Alors, en tout cas, en cas de dépression, il faut consulter. Il est clair que maintenant, il y a des traitements efficaces. Il ne faut pas se dire, j'ai dépassé 60, 70 ans, je ne relève plus de ces traitements. Pas du tout. On peut les donner jusqu'à 100 ans et au-delà.
Et ça mérite parce que ça redonne de la qualité de vie.
Exactement.
Pourquoi la controverse sur la décision de Medicare de restreindre le remboursement d'aducanumab aux États-Unis ?
Alors, Bruno Dubois en a dit un petit mot. Voilà, ce produit, malheureusement, il y a encore quelques doutes. Il y a des doutes sur son efficacité. Il y a des doutes sur ses effets secondaires. Il y a eu quelques accidents assez graves, notamment des encéphalites. Et il y a des doutes sur le coût. Ça coûte, je crois, 40 000 dollars par an. Donc, tout ça ajouté fait que l'enthousiasme est un petit peu retombé. Donc, on va se donner un peu de temps pour comprendre, mais la très bonne nouvelle, et ça je peux vous dire que nous l'attendions depuis 20 ans, c'est que c'est la première fois qu'on a un produit qui peut-être va agir directement sur la maladie d'Alzheimer. Même s'il n'est pas parfait, c'est le premier d'une lignée, c'est le premier de la famille. Et je n'ai pas de doute sur le fait qu'on va trouver des frères, des petits-fils qui vont, à terme, donner des résultats sur la maladie d'Alzheimer.
C'est comme les chimiothérapies, les premières étaient avec beaucoup d'effets secondaires.
Exactement.
Et aujourd'hui, on s'est affiné, précisé les
Exactement.
Choses. Alors, il y avait une question de Nathalie, donc je l'ai gardée. Est-ce que ces médicaments sont encore en phase de test ou est-ce qu'ils peuvent déjà être prescrits en France ?
L'aducanumab ? Test, c'est pas prescrit, c'est pas accepté encore par les autorités de régulation du médicament.
Alors on a beaucoup parlé d'un article qui a fait beaucoup parler de lui, un meilleur dépistage de la maladie d'Alzheimer est possible grâce à 75 facteurs génétiques, donc 42 nouveaux facteurs. Ça c'est une étude de l'Institut Pasteur de Lille et du CHU de Lille. Que faut-il en penser ?
Alors, il faut en penser du bien, mais on est encore un petit peu là dans l'anticipation. On n'est certainement pas capable de vous faire un génome et de vous dire « Ah, ben vous allez avoir l'Alzheimer dans 5 ans ou dans 15 ans, vous n'aurez jamais l'Alzheimer ». Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez envoyer un petit échantillon de salive aux États-Unis et puis on vous dit qui étaient vos arrière-arrière-arrière-grands-parents, de quel continent ils venaient et quel type de maladie vous risquez d'avoir dans 20 ou 30 ans. Bon. Moi, je pense que, à part vous angoisser terriblement, ça ne sert pas à grand-chose. Et on peut donc, soi-disant, vous dire aussi que vous avez un risque par rapport à l'Alzheimer. C'est vrai qu'il y a quelques gènes qui sont des facteurs de risque. On a bien identifié, on les connaît. Et puis, il y en a beaucoup d'autres qu'on est en train de découvrir. Ce que l'on sait aujourd'hui, qui a été esquissé tout à l'heure, les formes génétiques pures de la maladie d'Alzheimer... heureusement, sont rarissimes. C'est moins de 1%. C'est quoi les formes génétiques pures ? C'est des familles où à chaque génération, il y il y en a un sur deux qui commence un Alzheimer entre 45 et 55 ans. C'est dramatique, terrible, terrible quand on a ça, hein, parce que on sait que ça peut arriver. Et ces maladies-là, on connaît les gènes, on peut vous faire un dépistage génétique à 30 ans et vous dire, vous allez être comme maman, à 50 ans, vous allez oublier votre prénom. D'accord ? Donc, c'est pas marrant. Mais c'est rarissime. La grande majorité des cas de maladies d'Alzheimer sont des formes dites sporadiques ou qui se déclenchent, on va dire, entre 75 et 95 ans et qui arrivent parce que, eh bien, un certain nombre de facteurs se sont ajoutés et ont abouti à une maladie d'Alzheimer. Parmi ces facteurs existent des facteurs génétiques. Ce qui fait que si votre mère ou votre grand-mère a eu la maladie d'Alzheimer, après 65, 70, 80 ans, votre risque à vous augmente un petit peu, mais pas de manière très significative. Car ces facteurs génétiques, eh bien, ne sont pas dominants, comme dans les formes familiales pures, où il suffit d'avoir le gène pour avoir la maladie. Là, vous avez le gène, mais c'est un facteur qui prédispose. Il faut avoir le gène plus d'autres facteurs. Exemple qu'on connaît dans le cadre, par exemple, de certains cancers. On sait que dans le cancer du poumon, si vous avez un certain gène et que vous fumez, vous allez avoir le cancer du poumon. Si vous avez ce gène et que vous ne fumez pas, vous n'aurez pas le cancer du poumon. Eh bien, probablement pour l'Alzheimer, c'est la même chose. Si vous avez ce gène et que vous êtes hypertendu, vous aurez l'Alzheimer. Mais si vous avez ce gène et que vous n'êtes pas hypertendu, vous ne l'aurez pas. Alors, ça paraît simple, mais en réalité, ce n'est pas un, deux ou trois facteurs. C'est probablement 15 facteurs interdépendants avec chacun, si vous voulez, une importance variable qui fait que c'est très compliqué de voir clair dans tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a les gènes. Il faut maintenant savoir comment ils interagissent, quelle influence ils ont. Et peut-être que dans quelques années, eh bien, on sera capable donc de vous dire, attention, là, vous avez un danger. Donc, compte tenu des gènes que vous prenez, surveillez de très près votre tension artérielle, évitez le diabète, évitez la dépression, je ne sais pas trop quoi.
Ça veut dire que même avec une susceptibilité génétique, il n'y a pas de fatalité et qu'on peut, grâce à cette épigénétique, échapper à des maladies qui sont dans notre code génétique, mais qui ne sont pas du tout
exactement.
Absolument obligatoires. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle.
C'est une nouvelle intéressante.
La principale théorie sur l'origine de la maladie d'Alzheimer serait remise en cause.
Oui, alors non, je ne dirais pas ça comme ça, de manière aussi catégorique.
C'est le titre d'un article.
Oui, c'est un article. Bon. Mais il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons toujours pas qu'est-ce qui déclenche réellement une maladie d'Alzheimer. Nous avons identifié la cascade d'erreurs biologiques qui aboutit à la mort neuronale et à la maladie. Mais qu'est-ce qui, au départ, réellement est en cause ? Est-ce que c'est l'accumulation de protéines bêta-amyloïdes ? Peut-être. Mais c'est à quoi les opposants de cette théorie dite amyloïde vous disent, mais regardez, on a maintenant ces médicaments qui débarrassent le cerveau de la protéine bêta-amyloïde. Les patients en ont moins, mais continuent à oublier. Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est le seul facteur ? Peut-être pas. Après, vous avez d'autres gens qui disent, ah, mais il y a la protéine tau. On vous en a dit un mot, celle-là, elle apparaît après. Donc certains se disent, mais au fond, bêta-amyloïde, ce n'est pas forcément ça qui était l'origine de la maladie, c'est plutôt tau qui apparaît parce qu'il y a trop de bêta-amyloïde. Donc ça serait une autre théorie. Après, d'autres vous disent, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est un problème d'inflammation cérébrale, etc., etc. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on s'interroge, on n'a pas encore de réponse très claire. Mais ce qui est intéressant et la bonne nouvelle quand même, parce que vous êtes peut-être en train de vous dire, mais alors, enfin, au fond, ils ne savent rien. Non, on sait
de plus en plus.
Plus en plus de choses, mais comme on part de pas grand-chose, y a évidemment encore beaucoup de chemin à parcourir. Qu'est-ce qu'il disait ? Il est parti de rien pour arriver à pas grand-chose. Bon, eh bien, c'est un petit peu ça qui nous arrive aujourd'hui. Mais année après année, les choses vont devenir plus claires et je pense qu'on va aboutir à des résultats, à condition qu'on s'y mette tous. Hein. Excusez-moi d'insister là-dessus, mais vous avez vu les chiffres tout à l'heure que je vous ai proposés en préambule. Il y a quand même un problème. Un problème, c'est que cette maladie n'est pas traitée à la fois par les pouvoirs publics et par les privés à la hauteur de l'enjeu. Il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on bouge un peu, parce qu'elle nous guette tous, elle va tous nous toucher si on ne fait rien. Alors, on a réussi, après 60-80 ans d'efforts, à trouver des solutions réellement efficaces pour le cancer. Regardez avec Covid ce qu'on a réussi à faire en moins de 2 ans, c'est juste prodigieux, mais c'était quand même beaucoup plus simple que le cerveau. Le cerveau, c'est la dernière frontière du corps humain. C'est vraiment un univers qui est très peu connu, où il y a énormément de choses encore à découvrir. Et il n'en demeure pas moins qu'il va falloir s'y mettre, qu'on n'a pas le temps, on ne peut pas attendre comme le cancer 80 ans. On a peut-être 20 ou 30 ans devant nous pour trouver des solutions, parce qu'après, si on n'a pas ces solutions, c'est l'équilibre entier social de notre planète qui va être remis en question. S'il y a trop de malades d'Alzheimer, comment on va s'en sortir ? On aura des familles où il y a de moins en moins d'enfants, où les gamins auront 2 générations d'Alzheimer à gérer, quand ce n'est pas 3. Imaginez ça. Donc, ça va être très, très compliqué. Donc, il y a urgence à trouver des solutions, et ça passe par nous tous.